Europe 1. Europe 1.
Ondulat raconte.
Et bonjour à vous tous. L'histoire d'aujourd'hui va nous faire faire une marche arrière de plus de 30 ans et nous faire entrer au cœur de l'une des plus grandes énigmes des années 80. La disparition de Philippe de Dieuleveux, un animateur de télé très populaire à l'époque, qui disparaît avec 6 de ses compagnons d'aventure alors qu'il participe à un raid en raft sur le fleuve Zaïre. Philippe de Dieuleveux et ses amis se sont-ils tout simplement noyés? Ont-ils été tués par l'armée zaïroise? Philippe était-il un espion de la DGSE, comme on a pu le dire à l'époque? Vous trouverez dans ce récit aujourd'hui toutes ces questions et quelques réponses. Et notamment grâce à l'enquête qu'a réalisée il y a quelques années son fils, Tuc Duhal de Dieuleveux, qui est là en face de moi et qui participera tout à l'heure au débrief de ce récit. Bonjour Tuc Duhal.
Bonjour Christophe.
Vous aviez quel âge vous quand votre père disparaît?
J'avais 4 ans.
Vous avez le début d'un souvenir physique de votre père?
J'ai quelques bribes de souvenirs, quoi, mais j'ai pas vraiment de souvenirs, quoi. J'ai pas mal d'images qui remontent, et puis avec ce qu'on a pu me raconter, donc je pense que je me suis fabriqué surtout des souvenirs, ouais.
Oui, c'est souvent le cas à 4 ans, on se les fabrique. Ce récit sera illustré en tout cas par des extraits du documentaire que vous avez consacré à l'histoire de votre père et de ses 6 compagnons il y a un peu plus de 10 ans. Et vous me direz d'ailleurs tout à l'heure dans quelles conditions vous avez réalisé ce documentaire et à quelles conclusions vous êtes arrivé à l'époque et aujourd'hui. Voici donc cette histoire, je l'ai écrite avec Cédric Lastenay, réalisation Céline Lebras.
14h-15h, Ondulat raconte sur Europe 1.
Cette histoire tragique nous fait remonter à une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, comme dit la chanson. Et même les moins de 30. ...1984, au moment où s'arrête l'une des émissions les plus célèbres de la télé française, La chasse au trésor. Animé par un reporter aventurier, Philippe de Dieuleveux, qui fait le tour du monde dans un hélicoptère à la recherche de trésors, aidé par des candidats qui, à Paris, ont des énigmes à résoudre. Tout ça dans une légendaire combinaison rouge. Ça vous rappelle quelque chose? Les vieux?
Je suis dans une autre pièce, il y a un piano, il y a une petite cheminée, des
instruments d'époque. Vous êtes rentré à l'intérieur?
Ça peut être là, ça. C'est en principe là où on va
dire une fête.
Et donc, l'émission s'arrête et le baroudeur Philippe de Dieuleveux se retrouve les bras ballants, ce qui évidemment ne pouvait pas durer. Début 1985, un aventurier, par ailleurs ancien commandant de bord à Air Zaïr, André Hérault, l'appelle.
Oui Philippe, dis-moi, je suis en train de monter une expédition, je voudrais faire la traversée de l'Afrique par les fleuves, d'est en ouest, tu vois. On part de Tanzanie, on va jusqu'à l'Atlantique par le Zaïr. Ça n'a jamais été fait, je te le dis tout de suite, c'est pas du gâteau, hein. Ça te dit d'en être? J'ai vu que t'avais arrêté ton émission.
Évidemment que ça lui dit. Il vient de passer 4 ans à faire le tour du monde dans un hélicoptère. Il a la bougeotte. Il est partant. Départ prévu en juillet. Dans les 6 mois qui suivent, l'expédition se trouve un nom. Africa Raft. Et un sponsor. Paris Match. Pas mal. Mais elle connaît quelques déconvenues. Elle devait partir de Tanzanie pour un raid de 5000 km. Trop compliqué. Ils partiront finalement du Burundi, du lac Tanganyika, 2000 km jusqu'à l'Atlantique. Petit à petit, l'équipe se monte. Ils seront 8. André Hérault, l'organisateur, Philippe de Dieuleveux, donc, qui veut réaliser un documentaire et qui a entraîné l'un de ses copains d'enfance dans l'aventure, François Laurenceau. Son caméraman, Marc Gurnot, et son technicien, Lucien Blockmans. Il y aura aussi Richard Janel, photographe à match, un chef d'entreprise aventurier, Guy Collette, et Angelo Angelini, un mécanicien. Ça fait 8.
naviguer sur deux radeaux, quatre dans chaque, à qui ils ont donné des petits noms, le Françoise et le Godelive. C'est Gérard d'Abbeville, le célèbre navigateur, qui a conçu les deux radeaux. Robustes, parce qu'ils vont devoir se frotter aux rochers dans la descente du fleuve Zaïre. 8 mètres de long avec de gros boudins pneumatiques de 80 cm de diamètre, équipés de panneaux solaires qui alimentent des radios qui permettront aux deux radeaux de communiquer entre eux jusqu'à 70 km de distance. Les voilà sur place. Philippe de Dieuleveux, qui est un peu la tête de gondole de ce raid, frétille comme un gardon.
Je connais relativement bien l'Afrique, mais je ne connaissais pas du tout la région des Grands Lacs et je dois avouer que venir au Burundi, c'était pour moi un rêve. Je suis sur le lac Tanganyika, je suis heureux et je vais partir donc avec toute l'équipe et nous allons donc tenter de sortir un document de 52 minutes, mais les conditions de tournage vont être difficiles, vous en doutez, avec l'humidité et avec l'eau sur laquelle nous serons tout le temps. Et ce que je vais faire découvrir, c'est par contre notre vraie aventure, l'aventure que nous allons vivre, la réaction des gens qui vont être sur les bateaux, confrontés aux problèmes donc de santé, de manger, de dormir, ça ne va pas être drôle tous les jours, on le sait, mais on est là aussi pour se tester personnellement, pour savoir comment on est capable de réagir, et je vais peut-être essayer de m'intéresser un peu plus justement aux réactions humaines, c'est ce qui m'intéresse dans ce film.
Ils ont prévu de partir de la rive burundaise du Tanganyika, mais vous savez ce que c'est, il manque toujours un tampon, et l'équipe reste coincée au Burundi tout le mois de juin 85. Ils en profitent pour tester les rafts sur le Tanganyika. Le 2 juillet 1985, ça y est, tout est en règle. L'Africa Raft peut commencer. Et c'est pas de la tarte, cette expédition.
Il y a des rapides, c'est certain. De quelle force, on l'ignore. À l'endroit exact également. On sait que c'est avant Nyamba. Peut-être vers 60 km, je ne sais pas. De toute façon, on le verra. On descend la rivière.
Mais il y a déjà eu des expéditions sur cette rivière.
À ma connaissance, pas.
Normalement, ils devaient emmener des armes avec eux. 6 armes pour se protéger et pour chasser, pour manger. Ils ont dû les laisser au Burundi. Le 5 juillet, les deux rafts se lancent sur les sources du fleuve Zaïre. L'aventure commence.
On de la raconte.
Je vous raconte aujourd'hui l'une des grandes énigmes des années 80, la disparition de Philippe de Dieuleveux, célèbre animateur de télévision, qui s'embarque à l'été 1985 pour un raid en raft sur le fleuve Zaïre. Et tout à l'heure, nous allons débriefer cette histoire avec son fils, Tugdual de Dieuleveux, qui a réalisé il y a quelques années un documentaire pour tenter de percer le mystère de la disparition de son père. Nous en étions au tout début de l'aventure, le 5 juillet 85, au moment où les 8 aventuriers, à bord de leurs deux radeaux, quittent le lac Tanganyika pour rejoindre le fleuve Zaïre. Et assez vite, premier incident sérieux. Des militaires zaïrois les visent avec leur kalachnikov depuis les rives du fleuve.
C'est comme dans les films, c'est-à-dire que les réflexes, ça va à toute vitesse. On voit à 15-20 mètres de nous quelqu'un qui épaule une kalachnikov. Bon, bah, on se dit, le mec s'il tire, on y passe, quoi. Donc François Laurenceau qui barrait le bateau, si mes souvenirs sont exacts, s'est transformé en feuille de papier à cigarette, a accéléré d'abord, et en même temps il s'est transformé en feuille de papier à cigarette. En se couchant, moi j'ai dû plonger au milieu des bactones à l'avant, et Philippe a plongé à l'eau en s'accrochant pour se protéger au cas où le gars tire. Il n'a pas tiré.
Il n'a pas tiré. Mais ce premier incident est la preuve que l'équipe ne sera pas confrontée qu'au danger du fleuve. Les deux semaines qui suivent sont plutôt tranquilles. Philippe fait de belles images. Il s'arrête régulièrement pour se ravitailler dans les villes qui bordent le fleuve. Il pêche aussi et pour dormir, il s'installe sur les berges avec des moustiquaires. Disons que pour l'instant, c'est un voyage entre copains plutôt sympa. Il y a quelques petites galères, bien sûr. Le Françoise se coince un jour contre un tronc d'arbre au milieu du fleuve. Mais bon, c'est pas une croisière du Club Med non plus.
Le 18 juillet, les deux radeaux arrivent à Kisangani. C'est une grande ville au centre du Zaïre. En 13 jours, ils ont déjà effectué plus de la moitié du parcours. Et là, deux équipiers débarquent. Marc, le caméraman, c'était prévu, et Philippe de Dieuleveux, il s'absente pour 15 jours. Ça, c'est un truc qu'il n'a pas pu négocier avec Diane, sa femme. Elle va accoucher. Ils ont déjà deux petits garçons, Erwan et Tugdual. Ils attendent le troisième. Il a promis d'être là. Et donc, il décroche pour quelque temps de l'aventure. Il reviendra quand le bébé sera né. Philippe va profiter de ce voyage à Paris pour déjeuner avec Christian Proto. Il faut que je vous raconte cet épisode parce qu'il va nourrir le fantasme selon lequel Philippe était un espion. Christian Proto est en effet l'ancien patron du GIGN et à cette époque-là, il est en charge de la sécurité de l'Élysée. Vous voyez ce qui nourrit le fantasme. Sauf qu'il va le voir pour lui parler d'un projet de documentaire sur le GIGN. Et à la fin du repas, il lui dit « Dis donc Christian, avant de repartir au Zaïre, j'aurais besoin de récupérer des moyens radio et puis des carabines de survie. Les Burundais ne nous ont pas laissé prendre des armes. T'aurais ça ?» Les carabines de survie sont des petites carabines pliantes qui sont faciles à cacher. Et bien sûr que Proto peut lui en procurer. Le soir même, Philippe recrute à Paris un nouveau coéquipier, un de ses copains, Jean-Louis Amblard. Jean-Louis, l'expédition a pris du retard, il y a une place de libre. Donc, si tu veux, tu nous rejoins. Les autres sont déjà au courant. Bah, si t'es partant, on prend l'avion dans 2 jours. Et Jean-Louis accepte. Et les deux hommes s'envolent vers Kinshasa, la capitale du Zaïre, le 1er août. Et ils retrouvent les autres au bord du fleuve, avec un ami de Guy Collette qui a rejoint lui aussi l'aventure. Moi, le caméraman, qui n'est pas revenu, maintenant, ils sont 9 pour boucler le raid. Il leur reste 150 km à parcourir sur le Zaïre. Mais c'est la partie la plus difficile, la partie la plus dangereuse. Il y a des rapides, beaucoup de rapides, près du barrage d'Inga, notamment. Alors ils commencent par faire un repérage en avion. Et ça leur fiche la trouille. Il y a des endroits où le débit du fleuve est énorme, les courants extrêmement puissants. A priori, personne n'est jamais passé par là. Le 3 août, c'est le départ.
À bientôt.
Au revoir.
En sortant du port de Kinshasa, les radeaux passent à côté du bateau du président Mobutu. Philippe a accroché une caméra sur le Françoise pour filmer dans les rapides. Il croise un bateau échoué sur les rochers comme un avertissement. Attention, danger. Et assez vite, les voilà embarqués dans des tourbillons phénoménaux.
Quand nous passons dans les remous, il est impossible de diriger le bateau. Il y a des tourbillons qui font peut-être un diamètre de 5, 6, 7, 8 mètres. Et le bateau se met dedans et il faut attendre d'en sortir. Voilà les tourbillons, ce style de tourbillon. Et voilà, nous sommes attirés par le tourbillon. Impossible donc de se diriger.
Et puis arrivent les premiers rapides. Et bien sûr, personne n'est attaché. Et Philippe, en plus, tient la caméra. C'est périlleux, c'est très périlleux. Et quand ils en sortent, et qu'ils posent le pied à terre, ouf, les moins expérimentés de la bande n'en reviennent pas de ce qu'ils viennent de vivre.
Pas mal, les mecs. Comme ça.
Ne s'est pas retourné, il tient bien.
S'il s'est retourné, je ne m'en suis pas rendu compte.
Quand ils ont quitté Kinshasa, le fleuve était large de 23 km. Et maintenant, il fait 400 mètres de large. Vous avez compris? Ce sont des trombes d'eau qui déboulent dans ce goulet. Et plus il se retrécit, et plus le débit augmente. Sur les radeaux, les gars sont brinque-ballés de haut en bas, de bas en haut, sur des vagues puissantes. Mais ça passe. et dans l'après-midi du 5 août, l'expédition fait étape sur l'île des Hippopotames pour souffler un peu. Avant d'aborder, demain, l'enfer du passage d'Inga, parce que ce qu'ils viennent de vivre n'est rien comparé à ce qui les attend.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui l'une des plus grandes énigmes des années 80, la disparition de Philippe de Dieuleveux, célèbre animateur de télévision, qui s'embarque à l'été 1985 dans un raid en raft sur le fleuve Zaïre. Et tout à l'heure, nous allons débriefer cette histoire avec son fils, Tuc Duhal de Dieuleveux, qui a réalisé il y a quelques années un documentaire pour tenter de percer le mystère de la disparition de son père. Je vous ai raconté les premiers jours du raid qui s'est lancé le 5 juillet 85 sur le fleuve Zaïre. L'expédition a traversé des tourbillons et des rapides phénoménaux. Il ne leur reste à parcourir que les 150 derniers kilomètres et notamment à traverser le passage d'Inga qui s'annonce comme extrêmement périlleux. Mais pour l'instant, toute l'équipe fait étape sur une île, l'île des Hippopotames, un bout de terre au milieu du fleuve. Ils ont allumé un feu et ils sont là tous les neuf autour du feu et ça débat sec. Est-ce qu'il faut continuer? Il y en a qui veulent arrêter. C'est trop dangereux, les gars. Quand on voit ce qu'on en a bavé aujourd'hui, c'est miraculeux qu'on s'en soit sorti, c'est miraculeux. Si c'est pire après, Inga, faut lâcher. Et la discussion se poursuit sous les moustiquaires une bonne partie de la nuit. Philippe de Dieuleveux lui-même hésite. D'autant que ses deux copains, François Laurenceau et Jean-Louis Amblard, ont décidé d'arrêter là.
Non, il n'avait pas envie d'y aller, mais bon, il était quand même un personnage public. C'était le personnage le plus public de notre expédition. Il avait une image, il pensait qu'il fallait y être allé, je pense, pour ça. Il a pris la décision de faire la dernière partie pour ça. Mais enfin, il avait, bon... Jusqu'au matin, il ne voulait pas y aller. Et puis le matin, la discussion avec les autres a fait que, au dernier moment, il a dit « j'y vais ». Et puis voilà.
Le lendemain, c'est décidé. Ils seront sept à tenter l'aventure. Dont Philippe, François et Jean-Louis abandonnent. Et ils voient leurs copains grimper sur les radeaux et disparaître au loin dans les tumultes du fleuve. Ils prennent d'ailleurs des photos. Et tous les deux se retrouvent du coup coincés sur l'île des Hippopotames. À plusieurs reprises, ils tentent d'entrer en contact par la radio avec le Françoise et le Gottlieb, les deux rafts. Ça ne marche pas.
Bon écoute, maintenant, faut trouver un moyen de rejoindre le rivage. Ouais, mais vu les courants, je vois pas comment on peut faire.
Ils sont là à tourner en rond sur cette île, au milieu du fleuve Zaïre, à se demander comment ils vont faire pour sortir de là, quand soudain apparaît une tête sur la rive. Un pêcheur qui flotte sur une grosse bouée, une chambre à air de camion, et qui se déplace en utilisant de petites écopes comme rames.
Ah, passez de l'autre côté ?
Le gars répond que oui. Et un par un, il les dépose sur la rive du fleuve. Et c'est là que ça se complique. Car ils tombent sur des militaires zaïrois qui les arrêtent sur le champ et les emmènent dans un camp plus au sud, à Matadi. Et là, on les fait poireauter dans une pièce pendant des heures, sans rien leur dire et surtout sans leur donner la moindre nouvelle de leurs sept copains. Et puis arrive la nuit et commence un interrogatoire.
C'était des questions assez surréalistes, du style, on nous demandait ce qu'on pensait de Mobutu. Quand on a 10 militaires zaïrois avec des armes autour de nous, on va en dire que le plus grand bien. On avait surtout l'impression qu'ils nous posaient des questions pour passer le temps, pour qu'on soit pas dehors, pour qu'on cherche pas.
Et tout en nous répondant, mais vous inquiétez pas, on s'occupe d'eux, vous inquiétez pas.
Il se trouve que ce soir-là, à Kinshasa, la capitale, un journaliste de l'agence France-Presse dîne chez l'ambassadeur de France. Et il apprend au cours du dîner que deux rescapés ont été arrêtés par l'armée zaïroise. Mais surtout que les sept autres ont disparu. Il appelle son rédacteur en chef à Paris, ils hésitent un petit moment et puis ils balancent la nouvelle, reprise immédiatement par toutes les radios.
Et puis cette information que nous recevons du Zaïre, de Kinshasa exactement, et qui concerne notre ami Philippe de Dieuleveux, qui vous le savez sans doute, est parti là-bas pour descendre le fleuve Zaïre. Philippe de Dieuleveux aurait disparu au Zaïre avec 7 de ses compagnons. Les autorités zaïroises nous font savoir qu'elles font actuellement des recherches, notamment avec des avions, mais ces recherches sont très difficiles.
Le 9 août, Gurnaud, le caméraman qui était rentré à Paris, est de retour. Et avec Gérard Daboville, le navigateur qui a conçu les embarcations, et François Laurenceau, ils décident de louer un hélicoptère et de suivre le fleuve jusqu'au barrage d'Inga, par les airs.
C'est, je pense, l'endroit le plus effrayant que j'ai vu de ma vie. Et j'ai vu des mers dures, des montées, etc. C'est un endroit véritablement stupéfiant. À 10 km, on entend le bruit des rapides.
C'est Paris Match qui finance l'opération.
Hé hey, là, regarde. C'est l'un des radeaux.
C'est le Françoise. Il est amarré à un rocher dans une crique. Il a l'air en parfait état, mais il n'y a personne à bord. Ni autour. Le lendemain, ils y retournent, toujours en hélico, et ils localisent le Gottlieb, échoué. Mais là, le radeau est en mauvais état, il ne reste que la structure, il a été pillé par les villageois. Mais là encore, personne aux alentours. Et ils constatent aussi à quel point le fleuve est dangereux à cet endroit-là. Des rochers qui apparaissent et qui disparaissent, des trous d'eau gigantesques. Et là, un terrible scénario s'impose. Ils se sont noyés. Ils se sont noyés, tout simplement.
Europe 1, on de la raconte.
Je vous raconte aujourd'hui l'une des grandes énigmes des années 80. La disparition de l'animateur de télé Philippe de Dieuleveux et de 6 de ses coéquipiers durant l'été 85 au cours d'une expédition sur le fleuve Zaïre. Une histoire que nous allons débriefer dans un instant avec son fils, Duc Duhal de Dieuleveux, qui a mené l'enquête il y a quelques années pour tenter de percer le mystère de la disparition de son père. Je vous ai raconté que le drame se déroule dans la dernière ligne droite de l'expédition, à l'approche du barrage d'Inga. 2 des coéquipiers ont abandonné, ils sont 7 à embarquer sur les radeaux le matin du 5 août 1985. Ils disparaissent juste après, on retrouve leurs 2 embarcations vides. Nous sommes 10 jours après le drame. Jean-Louis Amblard et François Laurenceau sont toujours sur place pour rechercher leurs copains. Et là, la police zaïroise leur fait comprendre qu'il faut rentrer en France, tout de suite.
Quels ont été les termes employés, je ne sais plus, mais on n'a pas eu le choix de rester sur place. C'était, bon, on a, maintenant c'est bien, vous avez fait ce qu'il fallait, mais maintenant, vous nous laissez faire et vous rentrez.
Là, on se pose des questions. Il n'y aurait pas eu tout ça, on serait dit, bon, ils sont noyés. C'était la première conclusion à laquelle on devait arriver. C'était, mais devant toute cette espèce d'agitation et de folie, on s'est dit, c'est passé quelque chose.
Et 5 jours plus tard, le 20 août, les Zaïrois retrouvent un corps.
Il était environ 17h hier soir. Un employé des installations portuaires de Beaumar signalait la présence d'un corps dérivant sur le fleuve Zaïre. Le corps était celui d'un Européen revêtu, d'après ce que l'on sait, d'un filet de sauvetage. Il a pu être repêché et ramené sur la rive. Aussitôt, les autorités civiles de la région ont été alertées de cette découverte qui intervient 2 semaines jour pour jour après la disparition des membres de l'expédition et surtout à près de 100 km en aval des rapides d'Inga.
Le corps est vite identifié grâce à la chaînette en or qu'il porte autour du cou. C'est Guy Collette, ce chef d'entreprise belge qui aimait l'aventure. Son corps est examiné sous toutes les coutures, il n'y a pas de blessure, mais l'un de ses avant-bras est cassé. A priori, il est mort, noyé. Et puis l'armée française entre en action. Le Zaïre est au cœur de la France-Afrique. Elle survole le fleuve à plusieurs reprises pour tenter de localiser les autres corps. les militaires français jettent aussi de gros barils de 70 kilos dans le fleuve pour évaluer le chemin qu'auraient pu faire les corps si les radeaux se sont retournés. Le baril s'enfonce parfois pendant 30, 40 secondes sous l'eau, ce qui accrédite l'hypothèse selon laquelle Philippe et ses 6 compagnons sont morts noyés et que sans doute les corps sont coincés sous l'eau. Mais on ne va pas en rester là. Car dans les jours qui suivent, un témoin débarque dans cette histoire. C'est un ingénieur qui travaille au barrage d'Inga. Le barrage se trouve sur la rive opposée de l'endroit où on a retrouvé les rafts.
Aux jumelles, comme j'avais pris les jumelles cette fois-là, j'ai pu remarquer l'embarcation. Tout de suite, je n'ai vu personne. Mais 5 minutes après, j'ai vu quelqu'un sortir de l'embarcation, aller vers la rive, revenir dans l'embarcation, prendre un sac et retourner sur la rive. En faisant attention, après alors j'ai vu 2 personnes debout dans l'embarcation qui rangeaient des sacs jaunes, identiques à ceux que j'avais vus avec les 2 qui avaient abandonné l'expédition.
Qui étaient ces hommes? Des coéquipiers de l'expédition? Ou des villageois venus piller les radeaux? L'ingénieur était trop loin, il n'est même pas capable de dire si les hommes qu'il a vus à la jumelle étaient blancs ou noirs. L'armée française envoie alors des hommes sur place, dans la crique où on a retrouvé le Françoise, le radeau sur lequel se trouvait Philippe. Ils retrouvent des objets, dont certains appartiennent à Philippe.
Caché donc sous la pierre là.
Sous la pierre là.
Oui.
Et François. Beaucoup de matériel là-bas au fond dans ce trou. Là. Bien caché, hein, bien enfoncé,
bien enfoncé, voilà. Et protégé.
Officiellement, pour les autorités françaises et zaïroises, les 7 navigateurs se sont noyés. Mais un doute subsiste. Est-ce qu'ils auraient pu être victimes de l'armée zaïroise? Est-ce que les soldats zaïrois les auraient pris pour des mercenaires et les auraient abattus comme des chiens? C'est une piste, parce que le barrage était très protégé à l'époque. Le gouvernement zaïrois craignait une attaque. On découvre que le 6 août, jour du drame, les forces zaïroises étaient déployées autour du barrage. Elles étaient en alerte. Alors, l'expédition a-t-elle été victime d'un quiproquo? En novembre 1985, les Zaïrois prétendent avoir retrouvé le corps de Philippe de Dieuleveux.
Disparu depuis 4 mois avec 6 de ses compagnons d'aventure, 1 mois de recherche par une 30aine de militaires français n'ont permis de retrouver qu'un seul corps, celui du Belge Guy Collette. Et toujours des incertitudes. Philippe et les compagnons de son radeau, que l'on a retrouvé pratiquement intact, ont-ils été interceptés sur les rives du fleuve par un commando ou séquestrés quelque part? La famille ne croit pas à la noyade. On a tenté en effet de lui remettre un corps en faisant croire que c'était celui de Philippe. L'épreuve, un téléx du consulat de France au Zaïre, affirmant qu'un 2e corps, retrouvé dans le fleuve, était celui de Philippe de Dieuleveux, après autopsie à Kinshasa. Et puis les résultats d'une 2e autopsie pratiquée à Paris à la demande de la famille et affirmant que ça n'était pas Dieuleveux. Il était reconnaissable à une fracture de la clavicule et une appendicite. Ça n'était même pas un membre de l'expédition.
Le dernier rebondissement date de 2008. Une journaliste du magazine 21 affirme que Dieuleveux et ses compagnons ont été exécutés par les services secrets zaïrois, accusés d'espionnage. Cette journaliste aurait recueilli le témoignage d'un espion zaïrois qui lui aurait raconté leur exécution. Voilà ce qu'il lui aurait dit. Ils ont été emmenés derrière un petit muret et tabassés. Nous avions l'ordre de les faire parler. Le nom qui faisait peur, c'était Dieuleveux, le chef de bande d'après les consignes. Il était têtu. Personne n'a avoué. Et ensuite, l'unité qui s'occupait des exécutions a pris le relais. Un témoignage dont il est très difficile d'apprécier la valeur, mais qui colle avec quelque chose qui est absolument certain. Philippe de Dieuleveux n'était pas qu'un journaliste aventurier. Il travaillait aussi pour les services de renseignement français, pour la DGSE, ça c'est une certitude. Mais rien n'atteste que dans cette expédition sur le fleuve Zaïre, il était mandaté par la DGSE. Rien.
14h, 15h, on de la raconte sur Europe 1.
Picard. La galette des rois qui sort juste du four. La pâte feuilletée pur beurre qui croustille. La frangipane amande qui fond en bouche. Et la fève qui s'y cache. Je ne sais pas vous, mais moi, cette année, je compte bien être couronné.
En ce moment, chez Picard, le roi, c'est vous. Alors laissez-vous tenter par la galette des rois frangipane pour 6 personnes à seulement 5,95€, soit 9,91€ le kilo. Picard, chaque jour un goût nouveau. Pour votre santé, bougez plus. Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui la disparition en 1985 de l'aventurier Philippe de Dieuleveux et de 6 de ses compagnons de voyage. D'ailleurs, au passage, c'est une faute qui est souvent commise. On parle toujours de la disparition de Philippe de Dieuleveux et les 6 autres sont complètement zappés en général dans le mythe. Ils étaient 7 et on a retrouvé le corps de Guy Collette, mais les 6 autres sont portés, dont votre père, Tuc Duhal, porté disparu au cours d'un raid en raft sur le fleuve Zaïre. Tuc Duhal, vous êtes le fils de Philippe de Dieuleveux, vous aviez 4 ans lorsqu'il a disparu, vous avez mené vous-même votre propre enquête pour réaliser il y a une dizaine d'années un documentaire. Quand vous vous lancez dans cette recherche, dans cette quête, quelle est la thèse familiale la plus partagée?
Alors moi, depuis qu'on est tout petit, notre maman nous a toujours dit que notre père était mort en faisant ce qu'il aimait, c'est-à-dire qu'il aimait l'aventure et donc il est mort en pleine aventure. Elle nous a surtout dit qu'il était mort noyé.
Que c'était un accident. Que c'était le prix de l'aventure.
Elle a quand même toujours laissé un doute en disant peut-être qu'il s'est passé autre chose et qu'on ne sait pas ce qui s'est passé.
Mais en gros, l'idée générale, la plus partagée, en tout cas dans votre petite cellule familiale, maman et les 3 enfants, c'est que c'est un accident. Ce qui n'est pas le cas forcément du reste de votre famille, du frère de votre père.
Tout à fait.
Qui lui pense que c'est un complot.
Tout à fait.
Voilà. Alors, vous allez sur place. Moi, je me dis qu'il y a un choc au contact du fleuve Zaïre. C'est un mythe pour vous, le fleuve.
Ah ben, c'est sûr que moi, quand je me retrouve là-bas... Je me souviens, j'étais très, de toute façon, comme tout le monde, très impressionné par le fleuve. Surtout après avoir passé la journée là-bas, me retrouver, je sais que la première chose que j'ai envie de faire, c'est d'appeler mon frère et ma sœur, et d'appeler ma mère, et d'être très malheureux finalement d'être là sans eux, quoi.
Ouais.
C'est sûr que c'est un mythe pour moi, ouais. Et ouais, pour eux aussi, j'imagine, encore aujourd'hui.
On voit tout de suite la dangerosité du fleuve au niveau du barrage d'Inga. Vous êtes allé sur le barrage.
On est allé sur les bords du fleuve, c'est n'importe quoi. J'ai pas d'autres mots pour décrire ça. C'est une machine à laver.
C'est dantesque.
Ça tourne dans tous les sens. On a l'impression qu'il y a des vagues qui remontent le fleuve. C'est vraiment impressionnant. Enfin, je comprends même pas comment ils ont pu avoir l'idée de descendre ce truc-là en raft.
Mais c'est peut-être le moment de vous poser la question. Est-ce que cette expédition était vraiment bien préparée? Parce que quand on raconte l'histoire, on s'aperçoit qu'ils ne savent rien de ce qui les attend. Il y a même un moment où ils prennent un petit avion pour aller voir. Est-ce que ça n'a pas souffert de beaucoup d'impréparation?
Aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose... On parle des années 80. Oui. Donc je pense qu'on se préparait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est vraiment dans une société où on prend peut-être moins de risques, ou en tout cas, on calcule beaucoup plus les risques que dans les années 80, avec cette période où il y avait quand même pas mal d'aventuriers qui avaient envie d'y aller sans filet, sans réfléchir, et de se lancer à corps perdu dans des aventures parfois un peu trop dangereuses.
C'est intéressant ça comme réflexion, parce qu'on est dans une époque qui sécurise beaucoup plus les choses.
Ah bah, c'est évident.
Aujourd'hui, il y aurait sans doute un drone qui précéderait l'équipé et qui renverrait sur un écran l'état du fleuve en aval pour savoir ce qui les attend, quoi.
Il y a quelques années, il y a des kayakistes qu'on descendu la même partie du fleuve, c'était pour une marque de boissons énergisantes très connue.
Oui.
Il y avait 2 hélicoptères, c'était super surveillé et ils avaient préparé pendant des mois avant de se lancer dans l'aventure, quoi.
Alors on sait que par les 2 survivants, Jean-Louis Amblard et François Laurenceau, que votre père hésite jusqu'au matin. Il y va parce qu'il est Philippe de Dieuleveux, que c'est lui la vedette et que le raid repose sur ses épaules.
C'est ce que m'a dit Jean-Louis Amblard, c'est ce que m'a dit François Laurenceau, et je pense qu'ils ont clairement raison. J'imagine que mon père, sachant c'était une personnalité, pouvait pas ne pas y aller, quoi. Ouais. C'était un peu obligatoire pour lui, quoi.
François Laurenceau et Jean-Louis Amblard, vous êtes toujours en lien avec eux ?
J'ai toujours des contacts avec eux, ouais.
Ils ont une petite responsabilité à votre égard. Enfin, je suppose qu'ils le vivent comme ça.
Oui, je pense un petit peu. Après, je les vois pas souvent. Après, je pense que c'est une histoire qui les a beaucoup marqués aussi. Surtout François Laurenceau, qui était vraiment le meilleur ami de mon père.
D'enfance, ils se connaissaient depuis tout petit.
Ils se connaissaient depuis tout petit. Je pense que ça les a beaucoup marqués et beaucoup affectés, ouais. Mmh. Et c'est même un peu difficile, je pense, pour eux de nous rencontrer aussi.
Oui. À cause de ça. Vous êtes arrivé à reconstituer la discussion qui a lieu sur l'île des hippos cette nuit-là, des hippopotames ?
Alors, reconstituer toute la discussion, non, mais c'est ce que vous avez raconté dans l'histoire, quoi. Tout le monde se pose la question, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas, c'est quand même dangereux. Ce qu'on a vécu jusqu'ici, c'était quand même pas rien. On a l'impression qu'après, ça va être pire. Donc tout le monde s'est posé la question, quoi, effectivement. Après, je pense que, de ce que je me souviens, François nous disait... On a vraiment été libres, personne n'a mis la pression sur les uns ou sur les autres, et chacun a fait son choix
parce que
personnel.
C'est intéressant de voir que son plus grand ami, François Laurenceau, qui est là, avec lequel il est sans doute très content de partager l'aventure, n'y va pas.
Ouais. Après, je pense que c'est des tempéraments aussi, quoi. Je pense que François est médecin, donc ouais. Je pense qu'il avait peut-être plus de recul.
Il est prudent.
Il est plus prudent, ouais, certainement.
Ouais. Et Jean-Louis ?
Et Jean-Louis Amblard est arrivé pas au début de l'aventure, donc il est arrivé à la moitié, on va dire.
Il est un peu à froid.
Il est un peu à froid, et puis je pense qu'ils se connaissent pas dans les mêmes conditions, donc je pense que c'était vraiment un choix personnel de chacun d'y aller ou de pas y aller.
La question que je ne peux pas ne pas vous poser, votre père était-il un agent de la DGSE ?
Alors déjà, c'est sûr que c'était un militaire. Il avait fait les parachutistes, il s'occupait des formations, la préparation pour être parachutiste. Après, il formait les jeunes et il était effectivement réserviste à la DGSE.
Oui, vous l'avez su comment ça ? Et vous le dites aujourd'hui avec certitude ?
Ah, moi, je le dis avec certitude. Je l'ai su comment ? Je l'ai su depuis que je suis tout petit, puisque ma mère nous l'avait toujours dit. Alors, je ne me rappelle plus exactement quand, mais en nous disant, voilà, moi j'avais toujours un numéro de téléphone. Au cas où il se passait quelque chose, je pouvais appeler ce numéro de téléphone.
Oui. Qui était le numéro du service, quoi, comme on dit.
Qui était le numéro des services, certainement. Apparemment, la seule fois où elle a essayé de l'appeler, ça ne fonctionnait pas. Et puis après, c'était dans le dossier, comme il y a eu une enquête judiciaire après la disparition, c'était dans le dossier d'enquête où la DGSE a bien expliqué que Philippe était réserviste à la DGSE.
Mais ça veut dire quoi, réserviste ? Parce que j'ignorais que ça existait, ça, réserviste à la DGSE. C'est-à-dire prêt à donner des coups de main, mais pas salarié, pas appointé, pas envoyé en mission spécialement.
Non, après, j'ai retrouvé d'autres documents où il participait à des formations. C'est-à-dire qu'on a retrouvé des documents dans lesquels il fallait qu'il se pointe à la gare de Mont-de-Marsan avec le journal Paris Match dans les mains et des chaussures bien faites à son pied. Et c'était écrit exactement comme ça.
Donc il a suivi la formation de la DGSE.
Certainement.
Vous dites Mont-de-Marsan. Dans mon souvenir, c'est Bayonne.
C'est peut-être Bayonne, j'ai dit Mont-de-Marsan.
La gare de Bayonne, qui est une gare aujourd'hui, au-dessus se trouve une partie des forces spéciales françaises, et c'était une caserne de la DGSE. Il me semble, hein. Je veux pas dire. Donc il était agent à la DGSE. Était-il, ou y a-t-il un doute sur le fait qu'il ait pu être en mission pour la DGSE au cours de cette expédition aux Aïens ?
Alors, moi, c'est vraiment mon opinion personnelle. J'imagine pas, avec tout ce qu'on a pu me raconter sur mon père, qu'il ait pu emmener son meilleur ami, qui lui n'avait rien à voir avec ça, qui n'était pas du tout militaire, qu'il ait pu emmener son meilleur ami dans une expédition avec un but autre sur lequel il l'avait emmené, quoi.
Qu'est-ce qu'il dit François Laurenceau, en l'occurrence ?
Sur
l'hypothèse qu'il soit en mission pour la DGSE ?
Mais moi, quand je les ai vus, ils m'ont pas laissé penser qu'il y avait une possible mission, quoi. Ils m'ont pas laissé penser ça.
En même temps, on voit pas bien quel type de mission on peut mener pendant qu'on descend le fleuve Zahir en raft, quoi.
Alors, jusqu'avant le barrage d'Inga, ça n'a aucun intérêt, je pense, parce qu'on est clairement au Congo et qu'à cette époque-là, en plus, je pense que Mobutu tient bien son pays. Donc je pense qu'il y a...
Je le précise pour les gens qui nous écoutent, le Zaïre ne s'appelle plus le Zaïre, mais s'appelle le Congo démocratique. Il n'est pas plus démocratique qu'avant, mais il a changé de nom. Voilà.
Oui, je pense que, enfin, avant d'arriver à Inga, il y a aucun intérêt, quoi. Et puis même, c'est comme vous le disiez dans l'histoire, la plus grande partie du fleuve, c'est une balade en bateau. Hein. Il y a quelques rapides, mais c'est rien de très dangereux. Après, effectivement, il peut y avoir quelque chose autour du barrage d'Inga, parce que c'était une zone quand même
stratégique.
C'est un énorme barrage
hydroélectrique
qui fournissait de l'électricité à pas mal de pays africains autour du Congo. Simplement, après... même s'il y avait une mission de surveillance du barrage pour savoir ce qui s'y passait, la plupart des ingénieurs du barrage étaient des Européens ou des Américains.
Voilà, ils pouvaient avoir un agent infiltré sans problème.
Et puis, quand on regarde le fleuve, on voit rien depuis le fleuve et c'est beaucoup trop dangereux, quoi.
On va marquer une pause, Tuc Duhal, et après la pause, vous nous direz à quelle conclusion vous êtes arrivé. Si vous êtes arrivé, à une conclusion ?
Pas vraiment.
On en parle après la pub.
Europe 1. On de la raconte.
Je vous ai raconté aujourd'hui la disparition en 1985 de l'aventurier Philippe de Dieuleveux et de 6 de ses compagnons d'aventure au cours d'un raid qu'il réalisait en raft sur le fleuve Zaïre. Et pour le débrief, je suis avec son fils, Tuc Duhal de Dieuleveux, qui a réalisé il y a quelques années un documentaire pour tenter de percer le mystère. Il y a un truc qui m'intéresse bien au passage, et on vient à ce qui est votre conclusion dans un instant, mais il y a un truc qui m'intéresse bien au passage, c'est que sur Twitter, ça bouge pas mal. Concernant votre père, est-ce que vous avez constaté que quand on dit de Dieuleveux aujourd'hui, il y a toute une génération qui se lève, qui ne l'a pas oublié?
Clairement, il y a toute une... je dirais les gens au-dessus de 40, 45 ans.
Oui, les alors, vieux, quoi.
Les vieux,
comme moi.
Qui étaient jeunes à l'époque, ou alors les personnes beaucoup plus âgées, qui regardaient aussi l'émission avec leurs enfants. Ça a marqué une époque, et il y a vraiment des gens qui sont encore très fans.
Vous arrive tous les jours quand vous dites vous êtes le fils d'eux?
Tous les jours, peut-être pas, mais en tout cas, à chaque fois que je parle, je donne mon nom, il y a toujours un questionnement chez la personne en face.
Alors, vous avez réalisé ce documentaire et il fallait bien conclure le documentaire. À quelle conclusion êtes-vous arrivé? De quoi est mort votre père? Parce que l'hypothèse qu'il soit mort est quand même sûre à 100%. Bien qu'il y ait eu toujours le mythe. Hein. Vous êtes au courant de la blague qui court? On dit toujours où est Philippe de Dieuleveux? Il joue au poker avec Alain Colas.
Ou avec Elvis Presley.
Ou avec Elvis Presley. Vous avez la certitude absolue qu'il est mort depuis toujours.
Oui.
Ouais. De quoi est-il mort?
Alors moi, vraiment, j'ai toujours un doute sur ce qui a pu se passer. Je dirais qu'en tant que fils, je préférerais que mon père soit mort noyé et qu'il soit mort exactement comme l'a pu le présenter ma mère, toujours. En faisant ce qu'il aimait. Après, à l'époque, j'ai essayé de faire la part des choses entre être le fils et être le journaliste. En tant que journaliste,
ça,
c'est quand même beaucoup plus troublant.
Oui.
Ouais, c'est plus troublant. Après.
C'est plus troublant parce que quoi?
C'est plus troublant parce qu'il y a. Il y a tellement d'éléments qui font qu'on peut chercher dans. Qu'il y a quelque chose à chercher, on a envie de chercher, quoi.
Ouais.
Le fait, oui, qu'il soit militaire et qu'il ait fait partie de la DGSE, c'est quand même quelque chose de pas
troublant.
Commun de troublant.
Ouais.
Qu'on retrouve pas les corps, c'est quelque chose de troublant.
Ouais.
Les bateaux, qu'il y en ait un qui soit complètement intact, qu'il y ait des affaires qui soient cachées sous des rochers, c'est troublant aussi.
La remise d'un corps, puisqu'un jour on vous rend un corps.
La remise d'un corps,
qui n'était pas le bon.
En plus, c'est le corps de Philippe de Dieuleveux, alors que finalement ça n'est pas le sien, c'est troublant aussi. Est-ce que ça a été fait sciemment avec l'envie de mettre fin à cette affaire? Effectivement, moi je ne sais pas.
Parce que c'est quand même la France qui atteste que c'est le corps de votre père. C'est l'ambassade de France qui atteste que c'est le corps de votre père. Quel serait l'intérêt de l'ambassade de France de vous faire avaler une couleuvre, de vous faire croire que c'est le corps de votre père si ça n'est pas celui-là?
Parce que peut-être aussi que il était quand même particulièrement connu, que ça faisait de la disparition, enfin ça faisait la une des journaux, hein, c'était vraiment l'ouverture des JT. Peut-être qu'il y avait aussi une volonté d'arrêter un peu tout ça, quoi.
De répondre à la question.
Mmh. Ouais,
vous savez ce qu'il est devenu, ce corps? Parce qu'il y a donc un type qui est mort au Zaïre, qu'on a emmené en France pour l'enterrer sous une pierre tombale, Philippe de Dieuleveux.
Aucune idée.
Ça me vient comme ça. Il y a bien un type blanc qui est mort un jour, qu'on a amené ici avec une étiquette Philippe de Dieuleveux, qui n'est pas Philippe de Dieuleveux, et qui, je ne sais pas qui il est.
Est-ce que
il y a 90 minutes à tourner là-dessus. Ouais.
Est-ce que ça a été fait sciemment? Enfin, quand on regarde les hôpitaux, comment ils sont faits et comment ça fonctionne.
Au Zaïre,
oui. Zaïre, moi j'y ai été dans cet hôpital quand on a fait le documentaire avec Jérôme Pain, avec qui j'ai co-réalisé le film, les méthodes sont pas les mêmes qu'en France, quoi. Ouais. On n'a pas les mêmes moyens et tout. Donc, effectivement, là, on parle d'un tronc, parce que c'était un corps sans bras, sans jambes, sans tête. Ça peut être, enfin, on peut le essayer de penser que c'est vraiment lui, alors que ça ne l'est pas, quoi.
Vous avez pu rencontrer des responsables de l'armée zaïroise, des autorités du gouvernement. Le Mobutu est tombé, le chef d'État de l'époque. Donc, au fond, il y aurait rien ne s'opposerait à ce que la vérité sorte.
Alors, moi, c'est vraiment comme ça que j'ai essayé de faire ce documentaire il y a 10 ans, en me disant je suis le fils. Ça fait un certain temps que cette histoire est là. Si j'arrive vraiment sans haine, à n'en vouloir à personne, mais juste à essayer de comprendre, et personne ne m'a rien dit. Que ce soit des autorités zaïroises ou que ce soit des autorités françaises. J'avais rencontré Roland Dumas, qui était ministre des Affaires étrangères à l'époque, qui m'a dit que ça n'était jamais remonté jusque dans son bureau.
Ce qui n'est pas vrai. Ce qui est impossible.
Ce qui est impossible, clairement. Je ne vois pas comment ce serait possible que ce ne soit pas remonté jusqu'à lui.
Est-ce que ça veut dire que vous gardez l'espoir qu'un jour, quelqu'un qui n'aura plus aucune raison de se taire, parce que c'est un secret qui ne mettra plus rien en jeu sur le plan diplomatique, vous dise la vérité?
Alors, ce serait super. Maintenant, je ne l'attends pas. Le fait d'avoir fait ce documentaire m'a aussi permis de me détacher un peu de cette histoire et de comprendre qu'elle est finalement pas que à moi, mais qu'elle appartient quand même à pas mal de monde, sachant que mon père était connu. Et donc, oui, si ça arrive, tant mieux. J'appelle toutes les personnes qui savent quelque chose à venir le dire. Pas de problème. Moi, je serais très heureux de savoir ce qui s'est passé. Maintenant, je vais arrêter de chercher. Parce que je crois que j'ai ma vie à faire aussi et que c'est trop fatigant.
C'est fatigant. En 2008-2009 est apparu cet article dans le magazine 21, cette journaliste qui dit qu'elle a trouvé la réponse à votre question, qu'elle a rencontré un responsable des services secrets zaïrois qui lui a dit que votre père avait été interrogé avec les 6 autres et qu'à la suite de cela, ils ont été exécutés parce qu'il était un espion.
Oui. Elle a affirmé ça. Elle a affirmé ça notamment sur la base de documents, des interrogatoires.
Qu'elle a eu accès aux procès-verbaux d'interrogatoire.
Oui. Et du coup, les policiers français sont rentrés en contact avec elle pour avoir ces interrogatoires. Il se trouve que c'était des faux. Enfin, que la signature de mon père en bas de l'interrogatoire avait juste été recopiée et repassée à l'encre. Il me semble bien qu'elle avait aussi payé pour avoir ses documents.
Ouais. Donc vous ne croyez pas du tout à cette version?
Ah non, pas du tout.
Du tout. Elle est pour vous totalement invalidée. Christian Proutot, qu'il rencontre pendant ce petit break qu'il fait pour la naissance de votre sœur Anaïde, est-ce qu'il a un bout du secret? Vous l'avez vu?
Je l'ai rencontré. S'il a un bout du secret, il ne m'en a pas parlé. Je pense que c'est... les acteurs de l'époque c'est encore trop important, je pense, pour eux, et il y a encore peut-être trop d'enjeux pour pouvoir parler.
Merci Christophe Ondelat, on vous retrouve dès demain 14h sur Europe 1, et vous pouvez également retrouver toutes les émissions de Christophe Ondelat, les histoires incroyables qu'il vous raconte en podcast sur notre site europe1.fr. Restez à l'écoute, dans quelques minutes, Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, Isabelle Morizet reçoit Frédéric Lenoir, philosophe et écrivain, un entretien en tête à tête d'une heure, ce sera à partir de 15h sur Europe 1.